France Inter. Depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, Mishka Assayas raconte Nirvana sur France Inter.
Bon, bonsoir tout le monde. Une fois n'est pas coutume, je me trouve pour ainsi dire à l'air libre, puisque nous sommes plusieurs centaines, je crois, ce soir, ça s'entend peut-être, je sais pas. Oui, ça s'entend largement. Bon, à célébrer un événement qui, a un peu plus de 30 ans, nous a marqué en profondeur. L'apparition d'un album signé par le groupe Nirvana, intitulé Unplugged in New York, dans lequel on découvrait quelques mois après le suicide de Kurt Cobain, sa voix à nu, enregistrée lors d'un concert exceptionnel en petit comité, un peu comme ce soir, voilà, dans un studio de Manhattan et filmé par la chaîne MTV. Nirvana, sans le bruit, sans la fureur, c'était complètement inattendu, parce que quand on a découvert le groupe, le son, c'était plutôt ça. Rape me, my friend. Rape me again. Eh oui. Rape me, viole-moi. Vous imaginez un groupe de rock, un rappeur, à plus forte raison une rappeuse, appeler une de ses chansons comme ça aujourd'hui, impensable. Déjà à l'époque, en 1993, ça avait suscité un tollé, et diverses associations aux États-Unis avaient fait pression pour que, sur la pochette du CD, le titre soit rebaptisé Waif Me, W-A-I-F, ce qui avait strictement aucun sens. Waif, c'est un gamin des rues ou un animal errant, enfin bon. La version que vous venez d'entendre, alors je le dis pour les spécialistes, n'est pas celle de l'album de Nirvana qui s'appelle In Utero, qui est sorti en septembre 1993. Enfin, c'est une démo, quoi, une maquette si vous préférez, enregistrée par le groupe en octobre 1992, un an avant, et le bébé dont on entend les vagissements au début, c'est la petite Frances Bean, qui est la fille de Cobain et de Courtney Love, que Cobain avait approché du micro, ce qui avait suscité une certaine gêne auprès des autres musiciens et de l'équipe. Alors bon, alors cette émission s'appelle Masterclass, alors il faut bien que je ramène un peu ma science, même s'il s'agit de détails franchement triviaux, mais enfin la vie c'est très souvent des détails extrêmement triviaux. Alors on écoutera la quasi-intégralité de cet album, donc Unplugged, qui sur la durée, et c'était assez inattendu, s'est avéré le plus populaire du groupe, au point que c'est devenu une sorte de classique, on le retrouve régulièrement dans les classements des albums les plus écoutés au monde. Et j'essaierai de donner des précisions hein, sur l'ambiance qui régnait ce soir-là, quand ce concert a été enregistré, les circonstances, le choix des chansons, enfin, tout ça. Alors je vais commencer, c'est assez naturel au fond, par livrer mon propre témoignage. Brièvement, je me rappelle avoir fait le voyage pour Rennes, exprès, pour voir Nirvana au Transmusical en décembre 1991. Je crois que c'était, il y avait, je me suis renseigné, parce que des trucs, évidemment, je ne m'en souviens plus, 6000 personnes. Je savais que la fois d'après, ce serait au moins au Zénith, et je voulais les entendre et les voir du plus près que je pouvais. Et pour être honnête, je n'en ai pas gardé un souvenir extrêmement net. La musique était géniale, bon, c'était comme une énergie dingue, mais qui s'écrasait au sol, pour ainsi dire. C'est marrant parce que ça me fait penser à l'impression que j'ai eue quand j'ai vu Joy Division en 1980. C'est-à-dire que c'était une énergie folle, mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'autodestruction. Alors je dis pas parce que c'est pas une sorte de savoir après coup, parce qu'il s'agit de deux suicides, mais peut-être il y a un lien que je pressentais, mais que je n'aurais pas été capable, évidemment, de percevoir avec netteté. J'ai gardé une image en tête, c'est la fin du concert, vous savez, le bassiste géant, Chris Novoselic, qui transportait à la fin du concert, dans ses bras, Cobain, inerte, hors de scène, vous savez, comme un blessé ou comme un mort au champ de bataille. Et c'est une image qui m'a jamais quitté. Puis un autre souvenir, je me rappelle avoir appris le suicide il y a 31 ans, jour pour jour, au début du mois d'avril 1994, c'était ici même, enfin, un peu plus haut, dans un studio de Radio France, je me trouvais face à Bernard Lenoir, que je pense, en personne, qui programmait, qui animait l'émission L'Inrecuptible, et qui m'invitait une fois par semaine à tenir une chronique. Et il m'avait appris sa mort en direct. Je me souviens, il l'avait apprise parce que c'était les téléscripteurs AFP à l'époque. Enfin, et je me rappelle avoir été totalement abasourdi, être resté sans voix. Et c'est un très curieux, très très curieux effet de l'histoire, enfin la petite histoire de la radio et du journalisme rock, d'être assis ce soir devant vous, 31 ans après, à tenter avec vous de mettre des mots sur tout ça. Alors je voudrais évoquer d'abord les circonstances de ce concert dit Unplugged. Le 18 novembre 1993, Kurt Cobain et Nirvana se trouvent sur une petite scène privée, celle des studios de Sony Music situés dans Manhattan, au cœur de New York. Devant une assistance choisie, quelques centaines de personnes, voilà, serrées autour d'eux, ils donnent un concert filmé par les caméras de la chaîne de télévision MTV pour la série Unplugged. Alors, le principe de la série, lancée en 1989, était assez simple. Chanteurs et groupes acceptaient de venir avec un matériel léger et ils jouaient, entre guillemets, débranchés, quoi, comme s'ils répétaient chez eux dans leur salon, c'est-à-dire sans amplification ou presque. Il faut dire que c'était particulièrement inattendu, puisque Nirvana est un groupe, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, qui déversait sur l'auditeur une avalanche de sons amplifiés à l'extrême, délibérément saturés et zébrés de l'arsène. Quant à Cobain lui-même, il hurlait comme s'il voulait détruire sa voix, et il rendait délibérément les paroles de ses chansons inintelligibles. Alors, bon, c'est à nuancer, cela dit, parce que quand le groupe a enregistré en 91 l'album qu'il a rendu célèbre, Nevermind, Cobain déjà entraînait le style de Nirvana vers une autre direction. Il tenait à ce que ses chansons, dont il était l'unique compositeur et parolier, soient accessibles à tout le monde, grâce à la séduction de leur mélodie. Enfin, au fond, toutes les chansons de l'album Nevermind pouvaient les reprendre en folk, en reggae, en bossa nova, avec un quatuor à cordes, il y a des gens qui ont même fait ça. En fait, ça marche. Et déjà, Cobain alternait, au sein d'un seul et même titre, deux types de voix. Une hurlante et une autre calme et comme désolé. C'est le cas de la chanson la plus connue de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, ou encore de l'Ephium. Bon. Et il y a quelque chose de frappant, enfin, parce que ça, il faut imaginer à quoi ressemblait le décor de ce concert, entre guillemets, Unplugged, qui a eu lieu, donc je vous le rappelle, 6 mois environ avant le suicide de Cobain. Le décor, la mise en scène, On remarque, posés par terre, sur un grand tapis aux motifs fleuris, plusieurs bouquets de lys, je crois que blanc et rose, et il y a des chandeliers sur lesquels brûlent des cierges. Et il y a un responsable du plateau de MTV qui dit à Cobain, mais en fait, ce décor que tu as voulu, que vous avez voulu, c'est comme une veillée mortuaire, en fait. Et Cobain le fixe dans les yeux et dit, ouais, exactement, c'est ça. Et Cobain, qui aimait souvent faire le clown sur scène, clairement n'est pas là pour rire. Il est extrêmement sérieux, extrêmement concentré, il ne sourit pas du tout, sauf de façon peut-être fugitive, et il articule les paroles de ses chansons comme il n'a jamais pris la peine de le faire. Bien sûr, il ne s'agira pas de l'ultime concert de Nirvana, puisque l'ultime fois qu'on a vu Nirvana sur scène, c'était le 1er mars 1994 à Munich. En pleine forme d'ailleurs, apparemment. Et un mois plus tard, environ, au début du mois d'avril, Kurt Cobain se tirait une balle dans la tête dans un appentis de sa maison de Seattle. Et 3 semaines avant, il avait fait une première tentative de suicide à Rome, en Italie, où lui et sa femme, Courtney Love, passaient quelques jours après la fin de la tournée. 2 jours après s'être enfui en escaladant les murs de la clinique où, sous la pression de son entourage, il suivait une cure pour se désintoxiquer de l'héroïne. Une drogue qui, c'était pas la seule d'ailleurs, était devenue son refuge. En tout cas, quand on écoute ce concert exceptionnel de décembre 93, Unplugged in New York, il est tentant d'y entendre une sorte d'adieu prémonitoire. À quel degré de conscience ou d'inconscience, bien sûr, c'est très difficile à savoir.
This is our first record. Most people don't own it.
About a Girl, c'est la première chanson qu'a interprétée Nirvana devant les caméras de MTV plantées dans un petit studio de Manhattan devant un petit comité. Quelques centaines de personnes qui sentent la crispation de Cobain qui, comme je vous dis, ne sourit pas et ne parle pas. Alors, aux répétitions, les jours précédents, il ressemblait, paraît-il, à une sorte de revenant, un spectre d'un autre temps. Et en fait, de répétitions, il n'y en a pas eu beaucoup, et même, il n'y a pas eu de filage complet. Et selon les témoignages qu'a rapporté le biographe Charles H. Harcross, dans son livre Heavier Than Heaven, la biographie de Cobain, eh bien, il est vert de peur. Il est persuadé qu'il va se planter. Ajoutez à ça qu'il a gerbé toute la matinée à cause de ses douleurs intestinales, pratiquement ininterrompues en fait depuis des années, et qu'il est dans une brève période de sevrage de l'héroïne. Il réclame quelque chose pour le soulager et qu'on lui a trouvé in extremis du Valium dosé à 5 mg. Et ça vous donne une idée de l'état dans lequel il se trouve quand il s'assoit avec sa guitare folk discrètement amplifiée. About a Girl, c'est une chanson qui détonnait dans le premier album du groupe Bleach qui est paru en 1989. C'était en fait sa version à lui d'une chanson des Beatles du début. Et d'ailleurs, dans le fac-similé de son journal intime qui a été publié bien après sa mort, orné de nombreux dessins, un journal intime très graphique, eh bien Cobain mentionne l'album Meet the Beatles comme un de ses préférés de tous les temps. Vous savez, c'est celui où on voit leur visage en noir et blanc, en clair-obscur. Alors, je vous parle de l'année 1989. Cette année-là, presque personne ne connaissait Nirvana en France. Moi, dans ces années-là, pour être parfaitement honnête, qu'est-ce que j'écoutais R.E.M., R.E.M., Elvis Costello, les albums solo de Morrissey, des trucs comme ça. Et il y avait néanmoins une poignée de passionnés auxquels je tiens à rendre hommage ce soir, notamment un frère et une sœur, Philippe et Véronique Doussot, qui vivaient à Pont-à-Mousson. Je ne sais pas si vous voyez, c'est entre Nancy et Metz. Et ils animaient une émission consacrée au rock indépendant sur Graffiti FM, c'était une radio à Nancy. Et ils avaient créé un fanzine, Hyacinthe, qui en était le complément. Et eux et quelques autres ont été en France les missionnaires d'un courant du rock indépendant qu'on appelait alors de façon un peu générale noisy, bruyant, bruitiste, si vous voulez. C'était un peu alors une auberge espagnole parce qu'il y avait tout ça, il y avait Sonic Youth, il y avait un groupe comme les Écossais de The Jesus and Mary Chain, et en tout cas un des premiers amateurs en France à avoir capté la puissance de Nirvana, c'est un certain Viviane Morrison, qui est le futur bassiste du groupe Helio Gabal, qui animait sur Radio Aligre, c'était à Paris, l'émission Helter Skelter. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains qui sont là, j'en sais rien. En tout cas, il s'était branché très tôt sur un nouveau courant que représentait alors un groupe qui s'appelait Mudhoney et qui était né dans la ville de Seattle, comme chacun sait, dans le nord de la côte ouest des États-Unis. Et c'est un courant qu'on commençait à appeler le grunge. Alors, c'est des détails que j'ai appris dans un article qu'avait écrit Bruno L'Esprit dans Le Monde il y a bien des années. Puis là, je ramène ma science parce que je l'avais noté. Et puis je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de le raconter ce soir. Et Bruno racontait que le 1er décembre 1989, à l'espace Icar de la MJC d'ici les Moulineaux, c'est pas tellement loin d'ici, Nirvana avait donné son premier concert en France en compagnie d'un autre groupe de Seattle qui s'appelait TAD. Devant, alors c'est officiel et historique, 214 personnes. Alors tous les billets n'avaient pas été vendus. Et à l'époque, Nirvana paraissait ni plus ni moins important que Mudhoney, peut-être d'ailleurs moins, ou que TAD, qui était là aussi ce soir, des noms restés largement ignorés du grand public. Et c'est le tourneur Christophe Davy, alias Doudou, alors manager d'un excellent groupe d'Angers que certains connaissent peut-être, les Tugs. Les disques d'ailleurs des Tugs ont été publiés par la compagnie Sub Pop, qui a lancé Nirvana, l'album Bleach, et qui a fait venir le groupe de Kurt Cobain, dont le batteur n'était pas encore le célèbre Dave Grohl. Il existe une captation vidéo de ce concert, elle circule sur la toile, et alors c'est filmé d'une façon telle qu'on ne voit jamais le visage de Cobain, qui est totalement caché par ses longs cheveux blonds. Et on voit juste son buste qui s'agite, une sorte d'effigie en mouvement, vêtue, vous savez, d'une de ces larges chemises à gros carreaux sorties d'une friperie qui allait devenir évidemment inséparable de son image. Alors c'est assez rigolo parce que dans le coin à gauche, on voit écrit, vous savez, dans ce lettrage blanc tremblotant propre au caméscope de la période, Nirvana. Voilà. Alors, tout ça pour souligner à quel point en 89, il était hautement improbable que l'année où, je sais pas, sur un plan international, triomphaient Michael Jackson et Madonna, Phil Collins ou encore Tracy Chapman, qu'une anti-star comme Kurt Cobain et un trio de rock noisy comme Nirvana s'imposent dans le monde entier dans des proportions comparables.
Mishka Assayas raconte Nirvana sur France Inter.
Un choix qui a dû surprendre le public qui assistait à ce concert privé de Nirvana en novembre 1993. Une reprise d'une chanson signée dans les années 80 par un groupe folk néo-psychédélique écossais extrêmement obscur, les Vaselines, que Cobain avait découvert lors de son séjour dans la ville de Olympia, un centre du rock alternatif. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Jesus doesn't want me for a sunbeam. C'était la déformation des paroles d'un cantique que chantaient les petits Britanniques, j'imagine à Noël. Vous savez, Jésus veut que je sois un rayon de soleil sous la pluie, enfin, un truc comme ça. Ben là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la proclamation de quelqu'un qui dit « Jésus ne veut pas que je sois un rayon de soleil pour lui ». C'est la proclamation de quelqu'un qui se sait et qui se veut aussi rejeté et dont l'existence même est une négation de toute grâce et de toute chance, peut-être aussi. On peut comprendre pourquoi ça résonnait fortement en lui, ces paroles. Alors, je vous ai décrit tout à l'heure les conditions, le décor, l'état d'esprit de ce concert, capté donc en novembre 93 par la chaîne MTV. Les trois membres de Nirvana ne sont pas seuls. Le batteur Dave Grohl frappe doucement son instrument, parfois au balai. Chris Novoselic, assis, joue d'une basse acoustique. Il passera d'ailleurs à un moment à son camarade Grohl. D'ailleurs, il se met aussi pour un titre à l'accordéon, hein, celui qu'on vient d'entendre. Et puis, d'autres musiciens les accompagnent aussi. À la guitare sèche, jouée en rythmique, il y a les frères Kurt et Chris Kirkwood, deux amis de Cobain qui ont fondé à Seattle un groupe du nom de Meat Puppets. Je vous en reparlerai. Puis on entend aussi une jeune violoncelliste de Seattle qui s'appelle Laurie Stanton. Et alors, il faut préciser un détail qui a vraiment son importance, et assez marrant d'ailleurs, c'est que Kurt Cobain n'a pas tout à fait respecté les règles du jeu des concerts organisés par MTV, qui sont censés donc présenter des groupes qui jouent sur des instruments au son acoustique, donc sans amplification, pur et sans déformation, sans électrification pour être précis. Il a en effet dissimulé dans un de ces caissons noirs qui abritent, bah, comme là, ce qu'on appelle un retour de son. Et bien, il a caché un petit pédalier d'effet qui déforme en toute discrétion le son de sa guitare folk. Cobain l'actionne pour certains titres sans que le public le voie. Et une partie de la tension qu'il exprime vient peut-être aussi de son malaise par rapport à ce dispositif qu'il a occulté. Et ce qui frappe dans ce concert très particulier, c'est vraiment la concentration de Cobain. Il a vraiment la tête de quelqu'un qui a pris une décision très ferme, en connaissance de cause, mais qui pour autant n'a pas l'air particulièrement heureux de l'exécuter. On voit son visage en pleine lumière, il n'a peut-être pas l'habitude, il est pour ainsi dire à nu, sans protection. Et dans son attitude, dans son corps, dans sa présence, il n'y a pas le moindre jeu. On a l'impression de voir quelqu'un d'absolument seul, même seul chez lui à la limite, en contact avec ce qu'il a de plus caché. Et c'est singulier. Alors, le moment est peut-être venu, mais d'ailleurs c'est logique, c'est dans l'ordre, d'entendre ce qui est devenu le clou inattendu de cet album, en tout cas pour la postérité, une reprise qui est devenue plus célèbre que l'original, vous avez compris. Je veux parler de la chanson « The Man Who Sold the World » qui a été créée par David Bowie en 1970. Alors, on y entend des paroles surprenante que Cobain, contrairement à ses habitudes, articule très clairement. Je vous les cite, je vous les traduis. Je lui ai parlé les yeux dans les yeux et je lui ai dit « Mais je croyais que t'étais mort, il y a bien longtemps, seul. » Des mots auxquels, dans la chanson, répond l'exclamation aussitôt « Oh non, pas moi, j'ai jamais perdu le contrôle et te voilà face à face avec l'homme qui a vendu le monde. » Et Kurt Cobain, c'est très... comment dire, charnel, donne à ses paroles une résonance à fleur de peau, très douloureuse. Alors, si vous écoutez la version originale de Bowie, vous l'entendrez déclamer ses paroles avec une sorte de théâtralité assez glaçante, qui est très forte, hein, qui suscite un effet, au fond, qui est presque opposé. On a l'impression que chez lui, deux voix distinctes, presque deux personnages différents, même s'il s'agit du même chanteur, se répondent à distance, ce qui est d'ailleurs souligné par l'effet qui a été utilisé par les ingénieurs du son qui ont capté la chanson. Et donc, dans la chanson « The Man Who Sold the World », en fait, c'est un jeune homme qui s'adresse à lui-même, mais à sa grande surprise, voire à son effroi, il ne reconnaît rien de lui, ni son visage, ni son âme. Et il a l'air de se demander « Mais qui suis-je ?» avec une sorte de froideur étonnée, et il nous prend, nous, auditeurs, à témoin. Et l'écho, ou son autre lui-même, on ne sait pas trop, lui répond « Ben, qui es-tu ? À la fois tout le monde et personne. » Et reprenant d'une manière quand même très intense les mots de Bowie, Cobain a l'air de sonder le fond de son âme, et il n'y perçoit strictement rien, sinon une surface qui réfléchit d'autres êtres que lui. Des êtres finalement plus vrais que lui et qui l'ont choisi, lui, qui est une sorte d'enveloppe vide, pour l'envahir et pour exister à travers lui. Lui qui n'est rien et qui s'abîme, quoi, et se perd dans cette espèce de vertige. Et c'est une chanson dans laquelle David Bowie s'était ouvert de la faille béante qui a traversé d'ailleurs toute son œuvre et au fond toute sa vie. Et vous pouvez imaginer à quel point ça a trouvé un écho, le mot est faible, à quel point ça a parlé à Bowie, à quel point Bowie a considéré que cette chanson, ses paroles, étaient les siennes. Et d'ailleurs, pour sur une note plus légère, quand Bowie chantait cette chanson sur scène dans les années 90, il y a des gens qui pensaient sincèrement que c'était vraiment une super idée de sa part de reprendre une chanson de Nirvana. Ce qui le faisait rire, évidemment, un peu jaune. Avant de chanter ce titre, ça c'est, je reviens à la soirée Unplugged, donc novembre 93, Cobain, qui avait jusque-là pas dit un mot au public, dit « Je vous garantis que je vais foirer cette chanson ». Bon, ce qui n'a pas été le cas.
Of David Bowie's song. Everyone I have
Penny Royalty, c'est une chanson qui figurait dans l'album In Utero de Nirvana. Et voilà, vous l'avez entendu, c'est un peu différent de ce qui précède, puisque Cobain est absolument seul à la guitare, ce qui n'était pas le cas dans les chansons précédentes. Et c'est vraiment un pivot, c'est un moment particulier dans la dramaturgie du concert, puisque Cobain, en fait, était très, très, très angoissé. Pendant tout le temps qui précédait le concert, il a demandé à ce que les gens les plus proches de lui, de son entourage, se mettent au premier rang, parce qu'il avait besoin de soutien, et il était persuadé qu'il n'y arriverait pas, et que son jeu de guitare n'était pas à la hauteur, que c'était au-dessus de ses forces. Et vous l'avez entendu, au début de cette chanson, sa voix coince plusieurs fois, elle se brise même plusieurs fois, puis il y a un moment au milieu où c'est presque, je dirais entre guillemets, pire que d'habitude, et il se met vraiment à assumer le fait que sa voix grésille, qu'elle est rappeuse, hein, je veux dire, qu'elle n'est pas très belle, que c'est une voix qui est la sienne, qu'il a l'habitude de noyer sous un déluge de bruit, et que là, bah, il va l'assumer, cette voix horrible, entre guillemets, en tout cas pas très agréable, qu'il va l'assumer devant des gens qui sont à quelques mètres de lui, comme je suis devant vous. Et en fait, là, elle est là, à nu, dans tous ses défauts, dans une sorte de laideur assumée. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très singulier. Et peut-être que c'est... Alors, je ne suis pas en train de chercher des clés pour forcer un coffre-fort de mystère, mais je veux dire, c'est peut-être aussi une des explications de la puissance qui se dégage de cet enregistrement et une des raisons pour lesquelles cet album continue à être écouté et avec autant de, bah, d'intensité et de ferveur.
A cracker, think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Is it me? Heaven save. Let me clear dirty lanes. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some rope. Haven't told. ties me to a tire. Choosing didn't ask for fuel. Losing me, heaven seed. Let me clear dirty wings. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Got some rope, heaven told. Promise you, heaven true. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Misses me the will instinct. Isn't me, heaven seen. Let me clear up during rains. Let me take a ride, hurt yourself. Want some. Got some hope, heaven told. Promise you, heaven true. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself.
Polly, une chanson qui figure dans l'album Nevermind et sans doute une des plus mémorables de cet enregistrement. Je parle de l'enregistrement d'origine. Cobain raconte qu'en studio, il l'a joué sur une guitare pourrie, achetée d'occasion à $20, dont il ne s'était même pas soucié de changer les cordes. En tout cas, la chanson est une ballade au ton lugubre, hein, ça on le perçoit, et elle a quelque chose de glaçant. On devine que le personnage dans la peau duquel se met Cobain est bon, carrément une ordure. Enfin, c'est un type qui a enlevé une jeune fille, qui l'a attachée, qui s'apprête à la violer, à la torturer et peut-être à la tuer. Et quand Nirvana l'a joué sur scène, ça, il y a un enregistrement d'un concert de 91, c'est très dérangeant parce qu'il y a une sorte d'excitation quand il chante ses paroles, une sorte même des cris d'enthousiasme dans le public, quelque chose de malsain, je dirais malsain et pas dérangé de l'être. Ce qui, encore une fois, dans le climat actuel, est inimaginable. Alors, en tout cas, il y a là-dedans une contradiction, c'est peu dire, un tiraillement, en tout cas, qui reflétait déjà le malaise qui allait s'emparer de Kurt Cobain. Alors, je passe à quelque chose d'un peu métaphorique, mais enfin, je ne pense pas que ça soit tiré par les cheveux. Parce que d'un côté, Cobain, il y avait une face lumineuse, c'est-à-dire qu'il aspirait au succès, à la célébrité, il aspirait à être une rockstar. Et de l'autre, il désirait être un héros tragique, un maudit flamboyant, un martyr, en somme. Et dans ce succès paradoxal qu'il avait pourtant recherché, il se rendait compte qu'il y avait un malaise, il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'était pas normal, et même qu'il y avait quelque chose d'une certaine façon qui était dégoûtant. Alors peut-être c'est difficile d'expliquer ça dans la société actuelle, qui présente comme ce qui est de plus désirable au monde, le fait d'être connu, reconnu, populaire, célèbre, de se promouvoir, de se vendre soi-même comme un produit de consommation. Et je pense que peut-être qu'au fond d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, les gens qui sont le produit de ce que je décris là, ressentent exactement ce que Cobain a vécu dans sa chair. Et peut-être, encore une fois, c'est une des clés grâce auxquelles on entre dans sa tête, dans son cœur, je sais pas. En tout cas, l'album Nevermind a apporté à Cobain et à son groupe un succès aussi inattendu que phénoménal. Alors, faut se remettre dans le contexte. Le rock, en 1991, semblait très essoufflé. La dance, le rap, la techno étaient en train de modifier le paysage de fond en comble. Alors, bien sûr, il existait un rock alternatif qui était très vigoureux, mais on n'imaginait pas que sur ce terreau-là germerait un jour de futurs superstars internationales. C'est-à-dire que c'était, au fond, des gens qui étaient contents d'être dans leur petit milieu, dans leur eux et leurs copains, et surtout, le grand public, c'était le grand Satan, quoi. Donc, séduire le grand public dans ce milieu-là, c'était suspect. Et sur le plan de la réputation et de l'image, d'ailleurs, c'était pas du tout souhaitable. Et certainement, c'est sur ce territoire-là, du rock alternatif, indépendant, que Cobain imaginait s'imposer. Un territoire marginal, sans règles, sans formatage, évidemment. Or, Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que très vite, les choses ont échappé à tout contrôle et Nirvana est devenu le fer de lance d'une mode paradoxale, une sorte d'anti-mode, si vous voulez, qu'on a appelé le grunge. Un mot qui, avant de désigner un certain style dans le rock, un style lourd et oppressant, au tempo assez lent, signifie tout simplement une forme de crasse, vous savez, celle qui se développe sous les ongles. Voilà, sympathique. Et Cobain a pas vraiment choisi d'être l'étendard du grunge, mais c'est devenu une mode et Nirvana était vraiment l'étendard de ça. Alors, Cobain venait des marges de la société. Il était issu d'un territoire rural du nord-ouest des États-Unis, d'un milieu, pour citer ses propres termes, de white trash, c'est-à-dire de blancs pauvres à la vie pourrie, qui aspirait, alors c'est lui qui le disait aussi, qui aspirait à intégrer les classes moyennes, mais n'y parvenait pas. Et la musique de Nirvana était, de ce point de vue-là, une combinaison nouvelle. C'était, il y avait des racines qui étaient justement dans ce milieu de la musique de ce milieu white trash, c'est un hard rock somme toute très traditionnel, très enraciné dans l'Amérique profonde, qui se mêlait à un punk hardcore qui, d'une certaine façon, justement, défiait et agressait cette musique populaire. Interviewé alors, Kurt Cobain a défini de cette manière la musique de Nirvana, je le cite, « Je voulais à la fois faire du Led Zeppelin, du punk rock totalement extrême et de la pop complètement naïve. » Alors on va continuer à écouter le concert Unplugged, c'est une chanson de Nevermind qui s'appelle Something in the Way, c'est une des plus belles chansons de Nirvana, je ne sais pas pour vous mais en tout cas pour moi, c'est une sorte de blues désolé dans lequel Cobain se met en scène comme un vagabond, abandonné par tout le monde, vivant sous un pont où il s'est réfugié. Un être humain réduit à la condition d'un animal errant et malade dont la vie est en trop, voilà, c'est Something in the Way.
Sprung a leak, and the animals I've trapped all become my pets, and I'm living off of grass and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have.
Something in the Way, ce sera le dernier titre de cette soirée spéciale consacrée à l'album MTV Unplugged de Nirvana, en hommage eh bien, au 31e anniversaire de la disparition de Kurt Cobain. Demain, ce sera un autre Very Good Trip de facture plus classique.